Je suis ravie d'annoncer que nous serons à VivaTech ce mercredi 22 mai pour modérer la table ronde « Rendre sa place aux médecins vers une santé plus humaine grâce aux données » organisée par Abbott avec des invités exceptionnels. Alors n'oubliez pas, rendez-vous le 22 mai à 12h30 à VivaTech. Un grand merci à Abbott pour leur confiance. Je suis Anka Pétré et vous écoutez Mentor en devenir, une série du podcast Mentor dédiée aux talents qui façonnent la santé de demain, mais dont le parcours peut vous inspirer dès aujourd'hui. Mentor est un podcast de Medcheck Studio, produit en partenariat avec Pharmaceutique, le média incontournable des décideurs de la santé. Épisode 19, Carlos Santana. J'ai l'immense plaisir d'entamer cette série avec une personne que j'admire et que j'apprécie tout particulièrement, Carlos Santana. Si Carlos inaugure cette série, ce n'est pas un hasard, tant son histoire est bluffante et inspirante. Né dans une famille humble et aimante à Mexico City, Carlos a tracé son propre chemin, d'une enfance solitaire à un début de carrière remarquable dans l'industrie pharmaceutique. Son histoire est celle d'un voyage extraordinaire, marqué par la détermination, la découverte de soi et une quête incessante pour influencer positivement ceux qui l'entourent. Carlos a cette capacité peu commune de réussir à se relever et à aller de l'avant encore et encore, même dans les moments de grande souffrance. De ses premiers pas à la télé mexicaine, au pari fou de tout recommencer à zéro en France, Carlos a déjà vécu plusieurs vies. Il incarne indéniablement l'esprit de persévérance et de résilience que nous célébrons dans ce podcast. Bienvenue dans Mentor en devenir. Leçon 1. Il y a des blessures impossibles à oublier. Carlos est né à la périphérie de Mexico City, dans un lieu très modeste. Il a grandi dans une famille aimante, avec un frère et une sœur plus âgés. Malgré la solitude de son enfance, il a développé un lien fort avec sa mère et a trouvé du réconfort dans son monde d'imagination, souvent seul dans sa chambre située en mezzanine.
La toute première partie de mon enfance, je me souviens plus ou moins, parce que enfin, forcément j'étais petit, mais c'est vrai que mon frère, par exemple, il a rapidement intégré la télé. Et du coup, j'ai vécu toujours avec une famille d'artistes, quoi. C'était mon frère qui était absent avec mon père. Moi, j'ai resté à la maison avec ma mère et ma sœur. Et puis, ça m'a inspiré à un jour vouloir faire la même chose que mon frère. Et donc, du coup, je suis allé faire un casting pour... c'est une entreprise mexicaine qui s'appelle Televisa. C'est un peu comme, je sais pas, TF1 en France. Bon, c'est la boîte la plus importante de télé au Mexique. Et j'étais pris, du coup, pour l'école de théâtre ou d'actuation, je sais pas comment le dire. Donc, j'ai fait 4 ans d'études, donc de mes 6 à mes 10 ans de théâtre, en même temps que j'ai fait mes études d'école primaire. Et donc, c'était assez particulier parce que justement, l'effet de voir aller tous les jours à l'école de théâtre, plus mes cours du matin, c'était très chargé. Et en plus, j'ai commencé à faire des telenovelas très tôt aussi, donc quand j'avais 6 ans justement. Donc, c'était vraiment des journées hyper chargées où je voyais pas beaucoup... Enfin, mes parents, finalement, ni mon frère, ma sœur. Mais j'avais beaucoup d'amis qui changeaient, en fait, petit à petit. Quand j'ai changé des productions, j'avais des nouveaux amis. Et donc, c'était assez cyclique, on va dire. J'ai toujours vu ça comme un jeu, en fait. C'était pas un travail pour moi. C'était vraiment un quotidien, finalement. C'était ce petit... comment dire? J'étais anxieux quand j'allais faire un casting, par exemple. Mais c'est quelque chose qui me plaisait, que je voyais comme un challenge. Et par la suite, quand j'étais déjà devant les caméras, avec justement toute la production derrière les caméras qui t'observe, etc., c'était une sensation assez impressionnante, mais qui me plaisait, qui me challengeait en fait. Je prenais beaucoup de plaisir à ça. Et d'ailleurs, j'ai appris que j'ai gagné de l'argent quand j'avais 11 ans. Donc du coup, la plupart de cet argent est allé évidemment pour la famille, pour construire la maison, pour avoir, je sais pas, une voiture, des choses comme ça. Mais c'est vrai que moi, je le prenais comme un jeu, et comme un quotidien, finalement.
Carlos s'est souvent senti éclipsé par ses frères et sœurs plus âgés. Cherchant à se distinguer, il s'est plutôt tourné vers ses études. Cette décision a marqué le début de son engagement à forger sa propre voie, déterminé à poursuivre une carrière qui lui était propre, loin des attentes familiales.
Mes parents, en fait, ils n'ont pas terminé les études supérieures. Du coup, c'était justement des études presque basiques. Ils ont terminé l'école secondaire et ils se sont arrêtés là. Donc, ils n'avaient pas forcément beaucoup d'ambition par rapport à mon éducation. Ils m'ont jamais obligé à faire quoi que ce soit en termes d'études, ni à personne de ma famille d'ailleurs. Par contre, il y avait beaucoup de valeurs dans notre maison. Mon père, par exemple, il a toujours été professeur de taekwondo. Et donc, avec les arts martiaux, il y a également toute la discipline d'être concentré, d'être respectueux, etc. Et c'est quelque chose qu'il m'a toujours appris. Et ma mère, elle était professeure de danse. Donc, elle avait toute la joie de la danse, l'effet de profiter des moments, du moment présent. Mais c'est également avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et donc, je pense que c'est des valeurs qui m'accompagnent toujours. Ces valeurs d'être persistant, d'être discipliné, mais c'est également d'être joyeux, d'être bienveillant. Donc, c'est des choses qu'ils m'ont appris. Après, c'est vrai que concernant la partie des études, c'est plutôt ma sœur qui m'a vraiment inspiré. Elle avait 6 ans de plus que moi. Et du coup, aujourd'hui, elle a terminé 2 carrières, en droit et en communication, avec des spécialités assez importantes. Et ça m'a toujours inspiré. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, je ferai aussi mes preuves, montrer que je suis capable. Et puis, c'est pour ça que j'ai fait l'école la plus importante du Mexique, qui s'appelle l'UNAM. C'est une école publique, mais très compliquée d'y rentrer. Et du coup, j'ai eu la possibilité d'avoir ces études avec une moyenne très haute, 19 sur 20. Donc, c'était vraiment, pour moi, la première grande réussite que j'avais pu accomplir par moi-même.
Dès son plus jeune âge, Carlos se distingue par son succès à la télévision et par son parcours académique exceptionnel, contribuant ainsi au soutien financier de sa famille aux côtés de ses frères et sœurs. Cependant, cette réussite apparente masque une réalité bien plus complexe.
C'est vrai que j'étais dans une enfance privilégiée parce que j'étais à la télé, mais également, dans ma famille, il y a eu des problèmes des familles, en fait. Des problèmes des familles où mon père, il était assez agressif à cause de l'alcool, parfois, très jaloux. Et donc, ça a marqué beaucoup mon enfance également. Donc, j'avais beaucoup d'amour de la part de toute ma famille. Mais en même temps, il y avait également des choses qui étaient pas si sympathiques que ça, quoi. Et du coup, ça a créé des blessures. À un moment donné, quand j'ai eu 16 ans, mes parents se sont séparés. Et mon meilleur ami du lycée, il m'a proposé de venir avec lui à l'église. Et du coup, j'ai découvert l'église protestante. Et sincèrement, c'est une période qui m'a énormément aidé à pardonner, à changer radicalement la façon dont je voyais les choses. Parce que j'étais assez énervé, je savais pas pourquoi. Et du coup, grâce à cette découverte de l'église, justement, j'ai changé, j'ai pardonné. C'est exactement ça. En revanche, il y a aussi un autre côté de l'Église, c'est que moi, je suis homosexuel. Du coup, depuis toujours, j'ai eu cette attirance pour les garçons. Mais quand je suis allé à l'Église, là, je me suis posé des questions, en me demandant est-ce que je suis normal, est-ce que c'est quelque chose qui est normal ou finalement je suis malade. Et les gens disaient que c'est une maladie spirituelle. Donc, pendant plusieurs années, de mes 16 à mes 20 ans, je me suis dit que j'étais malade. J'ai prié pour justement que cette maladie sorte de mon cœur ou de mon esprit. Et le moment où j'ai décidé d'aller dire à l'église, ils ont décidé de prier pour moi, d'essayer de m'exorciser, entre guillemets. Et puis, on m'a invité à faire une retraite spirituelle dans laquelle ils ont fait une thérapie de conversion, dans laquelle plusieurs personnes ont poussé les mains sur moi pour essayer de faire sortir cet esprit. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ça suffit, en fait, c'est pas possible, je suis pas malade, je suis qui je suis, je crois en ce que je crois, et je suis pas obligé de supporter ces types de comportements qui sont finalement bienveillants de la part des gens, ils veulent faire du bien, mais en fait, ils créent des blessures au lieu de soigner. Donc voilà, c'est une période où j'ai pu soigner certaines choses, mais c'est également, je suis m'assumer, et je suis dire, ça suffit, je suis qui je suis. Donc j'ai pu accepter que je suis gay et finalement c'était, je pense, le meilleur cadeau que j'ai pu recevoir, l'effet de pouvoir m'accepter et maintenant de militer justement pour les droits de toutes ces personnes qui essayent justement de s'accepter ou de se trouver, pour leur dire t'es pas malade, y a rien de mal chez toi, tu es qui tu es et du coup accepte-toi. Je pense que ça va toujours laisser une trace et je pense que ça c'est un petit message à faire passer à des gens qui soient pas forcément les plus tolérants ou qui aient des idées différentes, c'est que toute action laisse une trace. Elle peut être soignée finalement, elle peut être surpassée, mais elle va jamais être oubliée. Donc je n'oublie pas cette période. Et il y a des choses qui se sont passées qui ont été vraiment très positives, comme je te disais, en fait, les pardons, le fait de pouvoir trouver une foi qui me permet aussi d'avoir une mission dans ma vie. Mais d'autre part également, il y a ces blessures qui ont été créées et qui finalement va être toujours là. Donc je ne peux pas oublier, évidemment. Et même aujourd'hui que je parle, j'ai une certaine émotion quand je me souviens de cette période. Encore une fois, avec des côtés très positifs et des côtés négatifs. Mais voilà, je pense que c'est surtout ça. Il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à ce qu'on fait aux gens, parce que ça peut rester. Et pour le coup, chez moi, oui, c'est resté, mais maintenant, ce n'est plus une blessure qui me blesse pour le coup, que je puisse pas avancer sans penser à ça.
À suivre. Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Ce podcast est produit par MedCheck Studio, le premier studio spécialisé dans la production et la promotion de podcasts pour le secteur de la santé. Pour continuer à suivre l'actualité de ce secteur, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de notre partenaire pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à vos familles ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.